Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Chers auditeurs de Tranche de Vie, depuis longtemps, Erika et moi, nous avions projeté de nous rencontrer pour qu'elle nous parle de sa vie en Dordogne. Erika est une Lituanienne de Dordogne et elle a sans doute beaucoup de choses à nous dire, à la fois sur son pays d'origine et puis sur son pays d'adoption. Et nous la remercions d'avoir accepté d'être aujourd'hui dans nos studios. Erika, bonjour. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs comment vous êtes arrivée en Dordogne ?
Bonjour. Dordogne, c'était vraiment par hasard. Je cherchais la France de mes rêves. Et la France de mes rêves, c'était un peu introuvable parce que c'était la France de Jean Gabin. Parce que quand j'étais petite, je disais tout le temps à ma mère... Quand je serai grande, je vais me marier avec un Français et je vais vivre dans le vignoble. Et ma mère, elle me disait, Erika, dis à personne parce qu'on peut se retrouver aux prisons, parce qu'on vivait dans l'Union soviétique et on était occupé pendant plus que 50 ans. Et c'était vraiment dangereux de parler que tu veux vivre ailleurs que dans son pays de rêve, on peut dire. Et quand j'ai grandi, bien sûr, j'ai oublié que j'avais le projet de se marier avec un Français et vivre dans le vignoble, mais j'aimais beaucoup la France et la culture française. La musique, le cinéma, la langue m'a passionnée aussi. Je commençais à apprendre juste comme la langue très romantique et je commençais à voyager en France. Et on a commencé par Provence, Côte d'Azur, parce que ça, c'était la France de mes rêves que je loue dans les livres, vu dans le cinéma, mais... Je trouvais que ce n'est pas la France du tout. C'était très cosmopolite, très touchée par globalisation et ce n'était pas du tout authentique. Et après, on a monté jusqu'en Normandie et Bretagne et ça, c'était la France de mes rêves. Mais je disais, si je change le ciel gris qui est en Lettonie pour le ciel gris de Normandie, c'est un peu injuste. Et tout d'un coup, on s'est retrouvés il y a 10 ans. On a trouvé un petit gîte à Périgueux. Et on a tombé amoureux de cette région. Et quand on a descendu jusqu'à Issy-Jacques, tout par hasard, on a rentré. On a cherché un restaurant où on peut manger. Quelqu'un nous dit, allez à Issy-Jacques. On est venu à Issy-Jacques, on a vu Issy-Jacques. Et on dit, on reste là. C'était comme ça. Parce que... J'avais cette impression que là-bas, à Issy-Jacques, en Dordogne, on a cette impression que le temps, il s'arrête. On ne sait pas où on est dans le temps médiéval, où c'est début du XXe siècle, où c'est la fin du XIXe, on ne sait rien.
Ça remonte à une dizaine d'années?
Oui, le voyage en France en cherchant le... Vouloir prouver le rêve que j'ai eu sur ma France, c'était il y a 10 ans, mais j'habite en France il y a 8 ans. C'est mon 8e année.
D'accord. Et vous avez donc toujours habité en Dordogne, pratiquement ?
Oui, tout de suite, quand on a trouvé cette magique, quand on était touché par la magie de Issy-Jacques, parce que je pense qu'il y a quelque chose à Issy-Jacques, parce que c'est pas que nous, il y a beaucoup de gens qui viennent à Issy-Jacques, ils tombent amoureux de ce petit village et ils restent là-bas. C'est vraiment magique.
Bah, et... pas trop quand même, vous êtes quand même, tout le monde n'arrive pas à Issy-Jacques parce que vous ne seriez plus tranquille.
pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui arrivent, des Parisiens, des jeunes générations. Oui. Ça c'est étonnant quand même, je trouve. Parce que les Parisiens, ils sont assez gâtés et tout d'un coup, ils viennent dans un petit village tout perdu qui n'a que 900 habitants, même pas peut-être. Et oui, je trouvais cette France, dans la France profonde, je trouvais ça que je cherchais.
Comment étiez-vous arrivé à avoir une espèce d'attirance vers la France quand vous étiez jeune, enfin plus jeune que vous n'êtes.
Même si nous, on a grandi dans un état d'occupation, Vilnius, où je suis née et je grandis, il était vraiment toujours touché et contagé, on peut dire, par la culture française. On a eu beaucoup, quand même, les gens qui parlaient français dans l'école, pas dans les tous écoles, mais dans quelques-unes, tu pouvais apprendre la langue française. Et on a eu aussi beaucoup de cinéma, de chansons françaises. Et on connaissait Simone Signoret, Yves Montand. C'est peut-être aussi à cause de lien avec le communisme que le français avait. D'accord. Mais on avait le droit de être francophile. Et comme ça, de malheur, cette malheur nous a porté le bonheur. Et aussi, fameux Jean-Paul Sartre, il était à Vilnius, et notre photographe, une des plus connues photographes lituaniennes, il a pris la fameuse photo de Sartre quand il marche sur les dunes de Nida, c'est un peu comme votre dune de Pila. Oui. On a aussi les dunes qui est beaucoup plus petite, mais... Oui, on était vraiment touchés par France.
D'accord. Donc, alors là, ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a eu une sorte d'affinité qui s'est créée, parce que du temps de l'URSS, la culture française, par le biais de ce qu'on a appelé les compagnons de route, comme les gens que vous citiez, comme Yves Montand ou Simone Signoret, était quelque chose de licite et d'accepté dans la Russie et c'est ce qu'on appelait ses satellites comme l'était la Lituanie. Mais l'image que vous aviez de la France était une image assez déformée quand même. Vous la voyez à travers les chansons, à travers des romans.
Oui, c'était vraiment trop romantique et c'était... vraiment trop vieux, je ne pouvais pas trouver cette France, sauf à Dordogne peut-être, parce qu'on a vraiment de la France profonde et on a cette... quand tu regardes les vrais gens de cru de Dordogne, tu peux dire que oh, ça c'est comme dans le film de Jean Gabin. Il parle le même accent, il fait le même geste. Mais oui, j'avais cette image de France très romantique et vraiment chanson, film, quelque chose.
Alors déjà, vous avez eu un aperçu d'une autre France en vous rendant dans le midi méditerranéen. Mais depuis que vous vivez en France, est-ce qu'il vous est arrivé d'aller à la périphérie de grandes villes comme Lyon ou Marseille ou Paris, dans des quartiers où cette image idéalisée de la France profonde, elle a complètement disparu?
Oh, bien sûr, même le Paris, je suis grande amateur de Paris et j'ai aussi l'image de Paris qui date peut-être même du 19e siècle. Et quand je me suis baladée à Paris, déjà il y a la première fois je suis venue à Paris il y a 20 ans et maintenant je viens beaucoup pour mon travail et je peux dire que pendant les 20 ans il a changé beaucoup et pas pour le meilleur. Et quand je suis venue dans un village d'Antiquaire, qui est vraiment dans le périphérique de Paris, j'avais l'impression que oui, je suis, je ne sais pas où je suis.
Au puce de Saint-Ouen.
Oui, j'étais au puce de Saint-Antoine. Et quand je montais de métro, je dis, ah oui, bon, ça c'est Paris aussi, intéressant.
Très bien, donc là, vous me rassurez parce que je vois que vous avez quand même eu l'occasion de prendre du recul par rapport à l'image idéale que vous aviez de la France et que vous conservez en vivant à Issy-Jacq dans un milieu qui est encore préservé.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez parler à nos auditeurs un petit peu de votre formation et de votre métier, du métier que vous exercez, en fonction peut-être de la formation que vous avez eue ou bien parce que vous avez choisi de faire un autre métier?
De mon éducation, je suis journaliste, j'ai fini l'université à Vilnius et je travaillais dans une des plus grandes quotidiennes lituaniennes. Et après, j'étais un peu dans le business de relations publiques, publicité et d'événements. Mais quand j'ai décidé de tout quitter pour vivre en France, pour vraiment suivre mon cœur, Parce que je pense que c'est très important de le vivre, suivre ton cœur, même si journalisme c'était mon amour aussi, mais je pensais qu'est-ce que je veux faire là-bas, parce que je pouvais faire aussi le journalisme en étant en France, mais je disais que je veux vraiment tout changer et mon passion toujours c'était l'art. J'adorais l'art et l'artisanat et j'avais beaucoup de connaissances dans ce milieu en Lituanie et j'ai commencé à m'intéresser dans le milieu français et tout d'un coup j'ai eu cette idée que pourquoi pas monter un petit galerie d'art artisanat, l'idée que j'ai eue déjà en Lituanie, mais j'avais peur de le faire en Lituanie parce que tout le monde me disait « personne besoin de ça ». Et quand j'ai tout changé, j'ai dit « j'ai peur de rien maintenant ». Et même en France, tout le monde me disait « America, dans le petit village comme ça, personne besoin de l'art ». Mais je montais quand même, je suivais mon rêve jusqu'au bout. Je montais cette petite galerie où je présente les artistes et artisans français et lituaniens et aussi les artisans et artistes de tout le monde. J'ai même les créateurs de bijoux israéliens, turcs. Et je peux dire que pendant ces 7 ans, quand la galerie existe, que c'est vraiment un grand succès et que je ne regrette pas ni un seul jour que j'ai fait cette petit endroit d'art et d'artisanat dans ce monde très touché par la globalisation, made in China, le fast food, fast fashion, je ne sais pas comment dire en français.
D'accord. Là, vous avez, alors, vous avez occupé une niche qui est celle de l'artisanat des arts appliqués, mais en étant très ouverte sur le monde, sur les créations du monde qui nous entoure, et en donnant dans votre galerie leur chance non seulement à des artisans de l'Hexagone, comme on dit, mais aussi à des créateurs étrangers. Si j'ai bien compris, ce qui vous intéresse, c'est toutes les créations qui sont à la limite de ce qu'on appelle les arts appliqués, c'est-à-dire des bijoux, des créations artisanales, mais également, éventuellement, de l'art conventionnel, des peintres, des sculpteurs.
Je fais 4 fois par année les expositions des peintures. Et j'ai toujours un ou deux sculpteurs qui est présent. Et j'ai aussi fait beaucoup de porcelaine faite à la main. Ça, c'est le créateur de très fameux artiste français, parce que France, elle est très connue pour son porcelaine. Mais ça, c'est les collections modernes. Et aussi, je fais la petite collection de vêtements de créateurs lituaniens.
Ah oui, alors là, vous avez un spectre quand même qui est très large. Alors, on reviendra à votre galerie, mais dites-nous un petit peu ce qui survit de l'artisanat ancien et comment s'expriment les créateurs modernes dans la Lituanie contemporaine.
Mais je pense que maintenant, partout dans le monde, les gens, ils reviennent vers l'artisanat, vers quelque chose de vrai, et ils cherchent cette racine. Et cette authenticité, cette faite à la main, cette touche, parce qu'on peut faire tout maintenant avec l'imprimante de 3D, même peut-être mieux, mais c'est froid, c'est pas la même chose que les gens ils font à la main. Et en Lituanie, maintenant, on était toujours très dans l'art appliqué, et dans l'artisanat. Mais maintenant, en Lituanie, il y a le grand. On peut voir le grand monde de métiers anciens, comme tissage, par exemple, à la main, comme en médiéval. Il y a les jeunes filles qui apprennent ça parce qu'il y a peut-être 20 ans, quand on pensait que ça va s'arrêter avec la dame qui avait 70, 75 ans, qui tissait encore, mais. Il n'avait rien qui suivait ce chemin. Et maintenant, c'est très à la mode de réapprendre l'ancien métier.
D'accord. Ça, on a réussi à le sauver. Et est-ce qu'il y a d'autres formes ou d'autres matières qui sont utilisées? Je me souviens, par exemple, il y a quelques années, il y a eu une exposition, d'ailleurs, qui avait été encadrée par Aïda, sur les masques lituaniens. ces masques en bois, est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui survit, ou qui, voire qui renaît un petit peu?
Oui, on a toujours la jeunesse qui apprend ce métier ancien. On a la grande tradition de sculpteur en bois qui fait les masques et le... Je ne sais pas comment c'est dire en français, la sculpture de Jésus triste, on dit ça.
Oui.
Mais le seul, je pense que le seul pays, c'est Lituanie qui a cette image de Jésus triste, qui est vraiment un peu comme penseur de Rodin. Il est toujours dans ses pensées, un peu, il ressemble pas en sculpture religieuse, mais vraiment en sculpture
vraiment
de quelqu'un qui
vraiment,
pense...
Jésus qui doute au jardin des Oliviers.
Oui, c'est ça. Ouais. Ouais.
Très bien, et puis c'est vrai que votre pays est fameux aussi parce qu'il y a des manifestations de la foi chrétienne qui sont tout à fait spectaculaires, comme la colline des croix.
Oh oui, on a cette magique représentation qui est, je pense même que c'est connu partout dans le monde parce que c'est très rare, les collines de croix qui existaient même dans l'Union soviétique. Les soviets, ils essayaient beaucoup de fois de balayer cette colline de croix, mais sans aucune réussite.
Ça s'est toujours reconstitué.
Ouais.
Alors, en France, est-ce que vous avez comment est-ce que vous organisez votre travail pendant votre galerie? Vous avez un certain nombre d'artisans et d'artistes dont vous accueillez les créations régulièrement, ou bien vous prospectez à la recherche de personnes dont vous voudriez faire la promotion?
J'ai toujours la base avec qui je travaille et après, chaque jour, je cherche sur Internet ou sur l'autre source, je cherche toujours les nouveaux créateurs qui m'intéressent, qui proposent cette philosophie de la vie lente, de la vie authentique, de la chose vraie. Parce que maintenant, il y a beaucoup de créateurs, mais pour choisir, moi, je veux que... Chaque bijou ou chaque vêtement ou chaque objet qu'il parle avec mes clientes. Que ce n'est pas que le beau objet, que c'est vraiment avec un petit de philosophie, avec un aspect de métier ancien. Par exemple, j'ai une créatrice de porcelaine, elle est japonaise, mais elle habite en France. Elle utilise le petit bout de corde pour faire les ornements. Ah, et ça, c'est une tradition.
Les décors de ces... Ouais. Mais alors, vous parlez de porcelaine, c'est de la poterie, c'est de l'argile, ou bien c'est vraiment de la porcelaine cuite comme une porcelaine,
oui,
avec
oui.
Du kaolin?
Oui, c'est un vrai porcelaine. Ouais. Et elle, par exemple, elle liait cette tradition française avec une tradition japonaise, avec cette décoration de cordes.
D'accord, oui, qui est une technique très ancienne pour décorer les poteries.
Et... Pour moi, mon travail, c'est aussi, je m'éduque chaque jour en cherchant les nouveaux créateurs. Je sens que j'enrichis moi-même. Et aussi, en parlant avec mes clients, j'enrichis le monde de mes clients. C'est vraiment un échange, c'est pas que le business, c'est vraiment un échange entre les gens.
Votre démarche, elle correspond à une philosophie. Vous avez parlé souvent d'un monde ancien, un peu idéalisé. Est-ce que ça correspond à un souhait que vous avez de voir la mondialisation s'atténuer un petit peu, un retour aux sources, une croissance qui ne soit plus comme ça, échevelée et qui risque de nous conduire à la catastrophe? Est-ce que vous aspirez, autrement dit, à vivre dans un monde plus calme?
Oui, je voudrais bien survivre dans ce monde plus calme, et je pense que chacun, on peut changer le monde par changeant nous-mêmes, notre attitude et le mode de notre travail, le mode de comment on consomme, par exemple. C'est tout. Bien sûr, on ne peut pas revenir aux sources, on ne peut pas commencer à vivre avec les bougies ou couper les fils électriques ou je ne sais pas. Je ne pouvais pas vivre sans Internet, par exemple. Je suis accro d'Internet.
Vous n'êtes pas contre le progrès,
non,
mais vous êtes pour un progrès maîtrisé.
Oui, je ne suis pas du tout contre le progrès, mais parfois je dis si c'est le progrès ou c'est le regret. Il faut vraiment choisir parce que pas toutes les choses nouvelles sont le progrès. comme pas toutes les choses qu'on dit. Non, ça, c'est, il faut toujours progrès maîtriser. L'harmonie partout, je pense, ouais, ça c'est important.
Est-ce que vous avez des regrets? Ou est-ce que vous avez quelquefois la nostalgie de votre pays? J'imagine que vous y revenez peut-être. Les grandes forêts, les lacs, est-ce que les hivers profonds, est-ce que tout ça vous manque quelquefois?
Vous connaissez bien Lituanie, parce que ce qui me manque, c'est vraiment les forêts et les lacs. Parce qu'ici, je ne trouve pas le même en Dordogne spécialement. Et aussi, il me manque l'odeur de neige. Je ne suis pas très grande fan de neige, parce qu'en Lituanie, l'hiver, il dure très très longtemps, et c'est la neige avec la pluie.
Mais un hiver sans neige, vous ne concevez pas un hiver sans neige.
Oui, mais j'aime cette odeur de première neige. Après, ça devient très lourd, et ça devient la routine, la neige en Lituanie. Mais le premier jour, quand il y a le soleil et la neige qui tombe, ou la neige le soir, quand tu marches dans les rues et tu vois cette neige qui tourne, c'est très très beau.
Et quand vous allez rentrer chez vous et vous mettre près d'un bon poêle.
Oui, oui, oui. Ça, c'est beau et ça me manque beaucoup. Hein. Après, il y a une chose qui me manque particulièrement. C'est très banal, mais le pain lituanien. On a le pain aussi qui est très rare. Je pense que peut-être on est les seuls qui mangeons ce pain-là. C'est le pain de seigle, très à l'ancien. Et c'est le pain noir. Et ça, je ne trouve pas ici en France.
Par exemple en Allemagne ou en Pologne
Oui, mais ce n'est pas le même. Nous, c'est vraiment un pain très, très rustique et très, très noir. Elle est vraiment noire, noire et très rustique. Ça me manque beaucoup.
D'accord, mais là, il faut vous mettre à la fabrication du pain lituanien. Vous aurez peut-être du succès.
Peut-être. Une fois, j'ai essayé, parce que vous savez que les Français, ils sont très conservatifs quand on parle de goût culinaire. Oui. Et une fois, j'avais les invités et j'avais cette boue de pain noir. Et je préparais le pain noir avec les foie gras. Et au début, le Français, il était un peu choqué par cette combinaison. Mais après, il dit, oui, oui, ça, c'est un bon mélange de franco-lituanien.
Ils ont accepté. Là, vous avez fait un grand pas alors, vers l'intégration du pain lituanien dans la culture culinaire française.
Il disait que oui, c'est vraiment bon. Ouais.
Est-ce qu'à l'inverse, alors, vous avez dit ce que vous regrettiez de la Lituanie, est-ce qu'à l'inverse, vous pouvez nous dire ce que vous aimez en France?
J'aime cette... peut-être que je me trompe, mais j'ai cette impression que les Français, ils ont cette capacité de vivre le miracle du quotidien. Ils cherchent toujours de quelque chose de beau dans le quotidien. Peut-être que je me trompe, mais...
On les accuse de se plaindre constamment? Et puis de constamment dire qu'ils sont foutus, que c'est, tout va mal, etc.
Oui, et à cause de cette... oui, ils se plaignent beaucoup, les Français, mais quand le monde est foutu, ils cherchent pour le récompenser dans ses actions. Ils font, par exemple, un petit fête d'amis. D'accord. Ça devient vraiment un fête. Et quand ils mangent le premier croissant de matin et quand ils boivent du café, tu as l'impression que c'est le plus important dans le monde. D'accord. Et cet moment arrêté, je pense que dans la vie qui est très, très perturbée de vie aujourd'hui, politique, économique et tout ça, je pense que vous avez gardé cette conscience de chaque seconde qui compte.
D'accord. C'est-à-dire qu'ils prennent tout au tragique, mais ils ne prennent rien au sérieux.
Oui, oui, c'est ça. Ouais. Et j'ai aussi adore le humour français. Je pense que vous avez cette... auto-ironie qui est très importante.
L'autodérision, oui. Auto-dérision. Mais il y a beaucoup de... Enfin, en Europe de l'Est, les Polonais sont comme ça.
Oui,
hein,
oui,
parce
oui.
que vous avez entendu les Polonais se moquer
oui.
d'eux.
Oui, oui. Peut-être ça, c'est quelque chose qui est proche de notre culture, mais par exemple, les humours anglais ou américains, il n'est pas du tout le même.
Oui,
Et les humours français, il est un peu... Mais il est encore plus subtil, je trouve, que les humours polonais ou lituanien. Ouais.
On va couper court à ces compliments réciproques. Et Erika, vous allez nous dire maintenant, s'il vous plaît, si vous avez d'autres passions que votre galerie, que la vie à la française. Est-ce que vous avez des talents que vous exercez à côté ou bien des rêves qui ne sont pas encore, que vous n'avez pas encore réussi à assouvir?
Le talent, je ne sais pas si j'ai un talent, mais j'ai quelques rêves et quelques ambitions, on peut dire. J'ai toujours écrit, j'ai toujours travaillé comme journaliste et j'ai écrit beaucoup sur France, dans les presses lituaniennes. Et aussi, j'ai déjà écrit mon 2e livre ici en France. Et maintenant, je travaille sur ma 3e livre sur l'art de vivre à la française. Et cette année, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à peindre huile sur toile. Tout d'un coup,
Très bien, très bien. Et vous avez pris, vous prenez des cours ou bien vous êtes une autodidacte décidée?
Quand j'étais petite, je prenais le cours, j'étais dans l'école d'art, mais c'était vraiment jusqu'à l'adolescence. Et maintenant, je quand même considère que je suis autodidacte, et pour le moment, c'est juste le... Voilà. Qui vient...
Ça vient spontanément.
Oui, comme ça.
Et en plus de la création littéraire. Mais enfin, là, vous écrivez quand même, c'est quand même un petit peu documentaire. Parce que quand vous parlez d'art de vivre à la française, je pense que c'est destiné à un public quand même qu'il faut convaincre qu'il y a quelque chose à trouver dans cet art de vivre.
Ça, c'est pour le public lituanien déjà, parce que Lituanie, elle est vraiment un grand pays francophone. Il y a beaucoup de gens qui toujours est affamé de histoire française, et j'ai écrit pour eux. Et aussi, comme disait le femme d'ambassadeur de France en Lituanie, que Erika, tu as une mission de contagier tout le monde avec ton amour pour France, parce qu'elle me disait que je suis plus français avec mon amour de France que le vrai français. Ouais. Peut-être ça, c'est ma vocation et mon talent de contagier lituanien avec l'amour pour France, je ne sais pas.
Est-ce que vous êtes attiré par d'autres pays? Est-ce que vous avez beaucoup voyagé? Est-ce qu'il y a des pays qui vous attirent et avec lesquels vous voudriez prendre contact? Justement, à cause peut-être de leur manière de vivre.
Oui, France, il avait très très grande concurrence avant de m'installer ici. C'était Italie.
Ah, oui.
Ouais. Je suis le grand passionné de Italie. J'ai voyagé pas mal en Italie. Et j'ai aussi dans la vision, dans quelques années, je voudrais bien apprendre la langue italienne. Et chaque année, je viens en Italie pour une ou deux semaines pour me ressourcer.
Alors, vous avez des régions de prédilection en Italie?
Beaucoup de années, je rentre toujours dans le même endroit, c'est Venise, c'est à cause de Biennale d'art. C'est chaque deux années. Et après, j'aime beaucoup Toscane et j'aime beaucoup le nord de l'Italie qui n'est pas très italien, mais tous les lacs, ils me ressemblent un peu.
Ouais. Quand même, toutes les régions que vous évoquez sont des régions magnifiques. Là.
Oui.
Et donc, nous sommes très flattés d'avoir été préférés par vous à l'Italie parce que c'est vraiment un concurrent sérieux, je vous l'accorde.
Oui, mais je vous dis, c'était vraiment une grande concurrence. On hésitait quelques années avant d'installer. Ouais. Et sinon, oui, je voyage pas mal en Europe. Ouais, ouais.
Et il y a d'autres pays en dehors de l'Italie qui vous attirent
J'aime l'Espagne, mais juste... j'aime beaucoup San Sebastian, par exemple, ou quelque chose, mais c'est pas la passion, c'est pas cette histoire d'amour fou qui est avec France ou Italie. Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres régions de France que vous aurez encore à découvrir et que vous ne connaissez pas et vous aimeriez aller?
Je connais presque toutes les régions de France, sauf Corse, que je rêve toujours d'aller, et je voudrais bien un peu plus approfondir mes connaissances dans le Pyrénées, vraiment toute la montagne Pyrénées qui lie les deux, Atlantique et la mer. Ouais. Et je voudrais connaître mieux la région de Champagne.
Ben voilà un très beau programme et des activités qui compléteront votre activité à la galerie, pour laquelle nous vous souhaitons évidemment beaucoup de succès, beaucoup de chance. Et puis, on espère que vous continuerez à la fois à découvrir notre pays et à l'aimer. Et je vous remercie beaucoup de votre témoignage, Erika.
Merci beaucoup pour l'invitation et pour cette magique conversation. La bohème.
Ça voulait dire, on a 20 ans. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François. La bohème, et nous vivions de l'air.